30 minutes d'infos choisies
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Salut.
Bonjour.
Salut. Et nous sommes le vendredi 7 octobre 2022, il est 12h30 exactement.
Ouais, et on est bien content de vous retrouver sur le 88.4 à Marseille, Radio Galère, et en Avignon sur Aioli Radio, en DAB+. Vous nous écoutez également sur le site internet si vous êtes pas en région PACA. Et donc c'est radiogalère.org, vous nous réécoutez, tous nos podcasts sont en ligne sur radiogalère.org également. Soyez les bienvenus, on est rediffusé le lundi matin de 7h30 à 8h ou de 8h à
8h30. De 7h30 à 8h dans les bouchons.
Dans les bouchons. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est les infos choisies comme tous les vendredis à 12h30.
Et aujourd'hui, le CQFD du mois d'octobre vient de paraître avec une couverture efficace et que je trouve très pertinente. C'est une fausse pub avec un style des années 80, je dirais, aux couleurs bleues, roses, violets, jaune pâle, avec un titre gigantesque, Inflation. Au centre, un caddie de supermarché dessiné qui est rempli de denrées alimentaires et qui déborde même de denrées alimentaires, et de Elisabeth Borne et Darmanin, qui sont tous serrés et entassés au fond comme s'ils étaient derrière les barreaux d'une prison. Avec un slogan en bas, on va prendre « cher » avec « cher » surligné de violet. Une flèche de croissance traverse tout le dessin en diagonale. Voilà, moi je trouve cette caricature que cette caricature reflète bien la situation qui parcourt l'Europe actuellement, avec la flambée des prix des carburants, du gaz et de la nourriture. L'Angleterre vit un mouvement social hyper conséquent actuellement, plus vu depuis 20 ans. Et on espère que cet automne sera aussi le signe d'un grand mouvement social en France et partout en Europe, contre l'inflation, mais aussi contre le capitalisme, Macron et son monde.
Et on va parler aujourd'hui de l'Assemblée nationale et qu'elle nous fait vomir. On va parler des révoltes en Iran assez longuement, mais on va aussi commencer par les grèves dans les raffineries en France, justement.
Et oui, puisque 5 des 7 sites qui fabriquent du carburant en France métropolitaine sont en arrêt actuellement ou touchés fortement par un mouvement social et où l'était encore mercredi. Moi, l'info que j'ai, elle date de mercredi, donc si les sites ont repris depuis, voilà, je ne suis pas au cœur de l'actualité comme BFM TV. Donc en tout cas, il y a une grève depuis le 20 septembre qui touche la raffinerie du groupe Esso ExxonMobil à Fos-sur-Mer. Le mouvement touche également la plateforme de stockage et de bioraffinerie de Total Energy à La Mède depuis le 27 septembre. Du coup, c'est quand même conséquent sur des sites de raffinerie, hein, puisque ça va vite, hein, remplir les voitures. L'essence, le carburant, c'est quand même le cœur de ce système. Donc c'est vraiment imposant, ce genre de grève. Donc sur plusieurs sites en grève, par ailleurs, non, la direction de Total Energy refuse le terme de grève.
Bah oui.
Voilà. Mais le résultat est là. Selon Fabien Gros, secrétaire CGT, plus aucun produit n'entre ni ne sort des sites. Donc, ce qui est un mouvement de grève.
Il n'y a pas de grève, tout va bien, tout va bien. Il n'y a pas de grève, tout va bien, tout va bien. Il suffit de le répéter plein de fois et ça marche peut-être.
Voilà. La raffinerie Total Energy de Normandie, donc située à Gonfreville-Lorcher, près de Havre, la plus importante de France, est à l'arrêt aussi. Elle représente à elle seule 22% des capacités de raffinage sur le territoire. Mouvement de grève également à raffinerie de Fézin près de Lyon dans le Rhône et chez le groupe Esso ExxonMobil sur le site également de Port-Jérôme en Seine-Maritime. Voilà, du coup, on va voir comment ça continue tout ça. Qu'est-ce que demandent les salariés ? Eh bien, comme le titre de CQFD, c'est une augmentation des salaires pour un rattrapage salarial à hauteur de 10% pour l'année 2022 pour compenser l'inflation. Mais au moins, l'avantage, c'est que dans les raffineries, ils ont un bon moyen de pression, c'est plus clair. Que d'autres, et ils en profitent bien, et ils ont bien raison.
Merci Sono.
Sous les ponts d'Avignon, on y écoute, sous les ponts d'Avignon, on y écoute les infos choisies. Et ouais.
Voilà, c'était le petit jingle pour préparer la chronique vomi. Et oui, parce qu'on a le droit aujourd'hui à 12h35 dans les infos choisies à une petite chronique vomi. Et c'est pas vraiment un vomi de gastro, celui qui nous prend tout d'un coup comme ça par surprise, mais c'est plutôt un vomi permanent qui est là, tapis dans un coin, qu'on oublie parfois parce que, heureusement, nos vies sont remplies de pas mal d'autres trucs, mais qui peut ressurgir très rapidement. Là, vous vous demandez de quoi il parle, je vous le donne en mille, de l'Assemblée nationale. Mmh. Ouais, c'est pas nouveau qu'on a envie de vomir sur l'Assemblée nationale et ses 577 sièges. À 62% composés d'hommes cis, en immense majorité blanche, en immense majorité bourge. Et l'Assemblée nationale, vous savez, c'est cet espace-là qui est souvent utilisé comme exemple pour montrer que les nombres cités de faits ne dérangent pas. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé la retransmission des débats parlementaires à la télé ou sur Internet. Moi, parfois, quand je rentre un peu saoulée d'une réunion, je fais ça. Je regarde les débats à l'Assemblée nationale. Wow. Et je me dis, en fait, ma réunion, elle était pas si mal. Parce que c'est un spectacle qui vaut le détour. Des gens qui s'insultent, qui se hurlent dessus, qui se coupent la parole, qui s'empêchent de terminer des phrases. Vous imaginez l'ambiance. Alors, en même temps, ça me rassure.
Je croirais un CA de galère, quoi, comme
ça. Je me dis, la plupart de mes réunions, elles sont vraiment à 1000 années-lumière de cette ambiance-là. Et en même temps, en vrai, ça m'afflige. Parce que ces gens-là, ils sont censés représenter celles et ceux en France qui ont le droit de vote, qui décident des lois et qui impactent nos vies par leurs petites discussions, le cul plus ou moins bien calé dans leur hémicycle. Et ils disent d'accord ou pas d'accord. Et hop, les fins du mois, pas les leurs, parce que les leurs, leur indemnité parlementaire de base, c'est 7 500 € brut par mois.
Boom.
Voilà, mais donc avec leur d'accord, pas d'accord, nos fins de mois, elles deviennent tout d'un coup plus difficiles. Nos semaines, elles deviennent plus contrôlées par des dispositifs d'insertion sociale. Bref, voilà. C'est pour ça que l'Assemblée nationale réveille un peu comme ça l'envie de vomir un peu permanente, mais que parfois, elle est réveillée par des choses. Et cette semaine, y a eu deux choses qui m'ont beaucoup énervée. La première, c'est que hier, jeudi 6 octobre, l'Assemblée accueillait le colloque d'anniversaire des 50 ans du Front National. Aujourd'hui, c'est le Rassemblement National. Voilà, avec le nom du colloque, c'était Espoir du pouvoir. On adore. On se rappelle, cet anniversaire, c'est celui d'une réunion, donc le 5 octobre 72, à laquelle participaient des néo-nazis, d'anciens collaborationnistes, des SS, des types qui ont fait des trucs atroces pendant la guerre, bref. Et leur symbole est toujours la flamme tricolore copiée sur le mouvement de Mussolini. Voilà, le pire dans tout ça, c'est que la plupart des médias présentent ce colloque anniversaire un peu comme un fait, vous voyez, sans avoir vraiment rien à en dire, comme si finalement, ça y est, c'était l'évidence de la présence de ce parti dans tous ces lieux de décision de politique des partis. Et puis la deuxième chose qui m'a beaucoup énervée cette semaine, c'est les réactions des députés La France Insoumise. Quand Sandrine Rousseau s'est levée donc, pendant une question à l'Assemblée nationale sur les violences conjugales et elle a fait un signe d'utérus inversé avec ses mains. Voilà, donc à côté, pas très loin, il y avait Julien Bayou dont l'ex-compagne vient de dénoncer les violences psychologiques qu'il lui a fait subir. Donc Julien Bayou, lui, était toujours à côté. Il n'y avait pas Adrien Quatennens, qui, lui, est un député de la France Insoumise, qui est aussi impliqué dans des histoires de violences conjugales contre sa femme. Donc lui, il n'était pas là, mais du coup, la horde de députés LFI s'est chargée de manifester leur soutien à cet auteur de violences conjugales. Et du coup, moi, ça m'a donné envie de vomir, de partager avec vous mon vomi, et de leur dire « Mais bordel, rendez-nous l'argent, quoi !»
Rendez-nous toute cette thune.
Rendez-nous cette thune.
Je Je crois qu'ils écoutent pas.
Sûr, on les a perdus.
Oh, t'écoutes ou quoi?
On est là. Viens.
Ouh, oh, t'écoutes ou quoi?
On est là. Viens. C'est bien.
On est toujours dans les infos choisies et moi, aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous parler de la situation en Iran. Parce que, comme vous le savez probablement, depuis le 16 septembre et la mort de Jina Mahsa Amini, il y a des manifestations énormes partout dans le pays qui ont commencé par le nord-ouest, proche de la frontière avec l'Irak, dans la région du Kurdistan iranien. En quelques jours, les manifs se sont répandus dans tout le pays. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines jour pour jour que la révolte a commencé. Et la détermination des manifestantes et manifestants tient bon. On dirait bien qu'il s'agit d'un mouvement très particulier en Iran. Et ben, on n'en parle pas beaucoup quand même ici en Occident. Certains médias mainstream en parlent un petit peu. Au début du mouvement, il y avait pas mal de brèves à la télé, dans les journaux, les radios, etc. Et puis, depuis que les grands médias se sont rendus compte que c'était un peu plus complexe que juste des voiles qui brûlent et des personnes qui dansent, c'est comme s'ils ont eu la flemme de couvrir le mouvement et on en entend de moins en moins parler. Donc on va essayer de prendre quelques minutes pour en parler en essayant de faire au plus simple sans faire trop de raccourcis quand même. Déjà, l'Iran, on ne connaît pas bien ici en France. L'Iran, c'est 3 fois plus grand que la France. C'est 85 millions d'habitants, donc bien plus qu'en France. 60% de la population a moins de 30 ans. Et les 3/4 de la population vivent en milieu urbain. C'est pour donner un peu une image. Téhéran, la capitale, c'est 15 fois plus grand que Marseille. Et il y a au moins 5 ou 6 autres villes qui comptent plusieurs millions d'habitants. L'Iran contient aussi des énormes réserves mondiales de gaz et de pétrole. Bref, l'Iran, en fait, c'est un poids lourd au Moyen-Orient et même dans le monde. Mais on en entend peu parler parce que, comme quelques autres pays dans le monde, l'Iran est boycotté par, grosso modo, l'Occident, États-Unis en tête. Il y a plein d'imbrications que je ne saurais pas expliquer, mais grosso modo, l'Iran, dans les années 70, c'était une monarchie avec un shah, un roi, un régime ultra-autoritaire dans un pays en plein développement économique à cette époque, fin 70. Il y a eu beaucoup de mouvements de libération assez incroyables, culturels, politiques, c'était les années 70, quoi, qui ont finalement été complètement récupérés par un régime religieux autoritaire lors de la révolution de 79. Depuis ce moment, le régime est porté par 2 méga gros chefs, le guide suprême de la révolution, LOL, et le président de la République dans un régime toujours ultra autoritaire et répressif. Le truc, c'est que depuis des décennies, le régime iranien a aussi des alliés qui sont les ennemis de l'Occident, comme la Russie notamment, mais aussi le Hezbollah libanais et le Hamas qui s'opposent au régime israélien. Et puis, il y a aussi cette histoire de nucléaire. L'Iran, depuis des décennies, développe des usines de production de carburant nucléaire et les États-Unis et les Occidentaux, ceux qui ont déjà la bombe, accusent l'Iran de vouloir faire comme eux. Résultat, depuis 40 ans, l'Iran subit des sanctions internationales et des embargos. Et sur qui ça retombe ? Eh bien, sur la population qui galère de plus en plus. Aujourd'hui, 80% des Iraniens vivent sous le seuil de pauvreté. Ça fait beaucoup. Et le chômage est simplement énorme chez les jeunes. Donc, vous l'avez compris, c'est le seum général au sein de la population iranienne depuis au moins 1979 et des mouvements de colère éclatent vraiment très régulièrement, mais à chaque fois, le régime arrête, enferme, tue, punit, torture, viole, dépossède les opposants. En 88, par exemple, entre 3000 et 12000 prisonniers et prisonnières politiques ont été exécutés. La répression en Iran n'a juste pas de limite. Donc aujourd'hui, cette révolte, elle s'inscrit là-dedans.
Les Iraniens ont été socialisés, ont quand même grandi dans un régime autoritaire. Et donc, cette peur, ce que le pouvoir est capable de te faire s'il t'arrête, est quelque chose qui est important et qui aujourd'hui est utilisé. Et c'est très important parce que ce à quoi on assiste, c'est des émotions révolutionnaires très puissantes. La colère, la joie, cette espèce d'exaltation, c'est tout le monde dit, cette fois-ci c'est différent. Donc en fait, il y a un énorme enjeu à désactiver ces émotions collectives et la peur, l'intimidation et l'angoisse sont des techniques. Et c'est pour ça que les ONG parlent de 3000 personnes arrêtées par, on ne sait pas par qui elles ont été arrêtées, on ne sait pas où elles ont été emmenées pour beaucoup, ce qu'il va leur arriver. En 2009, les manifestants arrêtés étaient emmenés dans un centre de détention secret où il y a eu beaucoup de viols et il y a eu des tortures. Donc on a ces images-là et on sait tout ça. Et donc cette angoisse et cette peur par rapport à ce que les régimes peuvent faire est un élément à prendre en compte. Donc je pense qu'il faut que aussi, quand on regarde cette actualité, on soit conscient du fait qu'on n'est pas en train de juste rapporter des faits de façon objective, mais que la façon dont on se situe par rapport à ces faits et on se laisse ou pas gagner par l'angoisse est un élément dans la suite de la façon dont les choses peuvent se dérouler.
On vient d'entendre Shora Makarameni, anthropologue franco-iranienne, dans une émission de Mediapart, dont on va entendre d'autres interventions dans quelques minutes, et qui dit quelque chose d'intéressant, je trouve, parce que ce qu'elle dit, c'est aussi que si la situation en Iran est invisibilisée à l'international, alors il y a encore plus de chances que les manifestantes et manifestants se fassent simplement massacrer, se fassent disparaître, se fassent emprisonner. Le mouvement a déjà fait plus de 150 morts, des centaines de blessés, des milliers d'arrestations. La police tire à balles réelles dans les universités, dans la rue. En fait, la répression est juste terrible, mais les manifestations continuent. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait actuellement en Iran ? Difficile de le définir en quelques mots, mais dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Shora Makarameni répète ce que tous les Iraniens et Iraniennes semblent exprimer. Cette révolte est différente des précédentes. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle est portée et initiée par des femmes, ce qui n'a jamais eu lieu auparavant, qui sont organisées horizontalement, sans leader, sans organisation bien constituée. Et la devise de ce mouvement, c'est « Femme, vie, liberté ». Shora Makarameni parle très bien des revendications, justement.
Si l'on écoute la rue iranienne, il n'y a pas une fois le slogan « Non au hijab », par exemple. Les seuls slogans sont ceux d'un changement de pouvoir. Il n'y a pas de slogan sur « Nous voulons des droits ». Il faut écouter le fait qu'il n'y a pas une revendication de droit. Femme, vie, liberté, c'est un projet, en fait. C'est un projet politique, femme, vie, liberté. En tout cas, moi, je n'entends aucune revendication de droit. Quand on dit « où est mon vote ?», c'est une revendication de droit. Quand on dit « la vie moins chère », c'est une revendication de droit. Mais par contre, quand on dit « c'est notre dernier message, ce que nous voulons, c'est un changement d'ordre », qui est un des slogans, ça, c'est pas une revendication de droit. Les gens sont dans la rue et ils disent « mort à la dictature ». Mort au dictateur. Non seulement abat ce pouvoir, mais en plus, Ali Khamenei est un dictateur.
Ouais, je trouve ça très intéressant, là, la manière dont Shora Makarameni analyse le mouvement comme un mouvement vraiment différent des précédents, profondément révolutionnaire, animé par des personnes qui sont déterres à ne rien demander d'autre qu'un changement complet de régime, de société, de paradigme. Alors, depuis tout à l'heure, j'occupe volontairement les histoires de voiles et ces images que vous avez certainement vues passer de femmes qui brûlent leurs voiles, je vais y revenir. Mais avant de parler de ça, il faut dire que les mouvements actuels en Iran sont portés en premier lieu donc par des femmes et ont été rejoints par toute la population, y compris les hommes. Ils touchent donc tout le monde, vieux, jeunes, toutes classes confondues. Et Shora Makarameni va même un peu plus loin.
Ce n'est pas un mouvement de femmes, en fait. C'est un mouvement féministe. Et c'est un mouvement féministe, pour moi, intersectionnel, parce que Gina Mahsa Amini était une jeune kurde, et je pense que ça a joué sur le déferlement de violence et l'impunité de la police de la moralité, de la police des mœurs. Il y a une jeune manifestante qui a été violée au Sistan-Baloutchistan, ce qui a aussi embrasé le Sistan-Baloutchistan depuis deux jours. Et c'est pareil, le Sistan-Baloutchistan, c'est une minorité ethnico-religieuse extrêmement réprimée en Iran. Donc, il y a la question des minorités, des subalternes, il y a la question de la crise économique et de la presque disparition, ou en tout cas de la compression de la classe moyenne iranienne, du fait du régime des sanctions, du fait du Covid, etc., et de la corruption grandissante. Et donc, en fait, tout ça fait que le féminisme, pour moi, a à la fois intellectuellement et de façon pratique les outils, en fait, pour arriver à fournir un cadre d'expression d'une demande politique, de changement, vraiment.
Là, ce que Shora Makarameni dit, je crois, c'est que la pensée intersectionnelle a tout à faire dans cette révolution. Il y a un mouvement féministe, mais c'est aussi un mouvement de classe et de race, le tout porté énormément par des jeunes, des étudiantes-étudiants, des lycéennes, des lycéens, des collégiennes, des collégiens, qui s'organisent sur les réseaux sociaux et dans la rue, avec des moyens qui n'ont jamais existé auparavant, puisque le régime semble aujourd'hui ne pas réussir à couper complètement les moyens de communication, notamment Internet. Alors, concernant le voile, depuis le 16 septembre et le début des manifs, dont l'étincelle a bien été l'assassinat du coup de Gina Mahsa Amini par la police des mœurs à cause d'un voile pas assez couvrant, les médias internationaux se focusent beaucoup là-dessus. Les Charlie et compagnie aiment bien cette idée que les femmes musulmanes du monde se mettent à brûler leur voile parce que ça va dans leur sens et que ça montre bien aux musulmanes du reste du monde qu'elles devraient en prendre de la graine. Sale. Et du coup, bah, l'extrême gauche en France, elle sait plus trop où se foutre. Soutenir les femmes qui veulent porter le voile en France et celles qui veulent l'enlever en Iran, c'est pas super confortable comme position. Mais en fait, bah si, c'est assez logique. En fait, c'est juste tenir l'argument du pro-choix concernant le voile. Shora Makrameni.
Le féminisme peut être une force politique, en fait. Par exemple, je peux citer Fatemeh Seperi, qui est une militante pro-choix qui, elle-même, est extrêmement voilée, femme de martyr de la guerre, et qui est pro-choix, donc contre le voile obligatoire, qui est une de celles qui parle le plus fort, contre le régime, et qui a été arrêtée, d'ailleurs. Et le mouvement des femmes kurdes du Rojava de Syrie, qui, elles-mêmes, sont voilées, mais qui, quand même, brûlent des voiles. C'était magnifique, ça. On a une femme voilée qui brûle un voile et qui explique pourquoi est-ce qu'elle le fait en solidarité. Donc on voit bien que là, la façon dont les choses sont problématisées autour de la question du voile en Occident et surtout en France ne tient plus en fait bien face sûr à la réalité qui vient de là-bas et où le projet féministe en tant que projet politique se pose de façon beaucoup plus complexe et intéressante.
Donc, bah oui, on soutient les femmes iraniennes qui brûlent leur voile et oui, on soutient aussi les femmes en France qui le portent et on emmerde les personnes qui instrumentalisent les femmes iraniennes en prétendant qu'elles sont contre le voile et contre l'islam. Les femmes iraniennes ne font pas que brûler leur voile, elles coupent aussi leurs cheveux, elles chantent, elles parlent, elles brandissent des pancartes, etc. Et au passage, on emmerde aussi les personnes qui instrumentalisent les femmes voilées en France, qui prétendent un grand remplacement et qui prétendent surtout vouloir libérer les musulmanes de France. Ne vous inquiétez pas, elles s'en chargent. Donc, eh ben, en conclusion, mort aux mollahs, comme on pourrait dire mort aux flics, mort aux dictateurs iraniens, vive la révolution et on s'écoute un peu de musique iranienne.
تو ما نظری به حال ما کن آخر رمی یه مروبت به دل و به جان ما کن سیرمو تو ما نظری به حال ما کن آخر رمی یه مروبت به دل و به جان ما کن دل که آینه ی عشق تو بذار عاشق بمونه تو هوای با تو بودن واسه تو لایق بمونه تو یه رنگ و بابا باش آخه ترسی از خدا کن روزگارم پر درده منو از غصه جدا کن سیمو تو ما رو نظری به حال ما کن آخه رنگی یه مروبت به دل و به جان ما کن سیمو تو ما رو نظری به حال ما کن آخه رنگی یه مروبت به دل و به جان ما کن
یه تو ما نظری به حال ما کن آخر رنگی یه مروبت به دل و به جان ما کن سیرم تو ما نظری به حال ما کن آخر رنگی یه مروبت به دل و به جان ما کن دل که آینه یه عشق تو بذار عاشق بمونه تو هوای با تو بودن واسه تو لایق بمونه تو یه رنگ و با وفا باش آخه ترسی از خدا کن روزگارم پر درده منو از غصه جدا کن سیغمه تو ما رو نظری به حال ما کن آخه رنگی یه مروبت به دل و به جان ما کن سیغمه تو ما رو نظری به حال ما کن آخه رنگی یه مروبت به دل و به جان ما کن.
Yeah, c'était Arman avec Sia Amo. Alors j'espère que je prononce, enfin je prononce probablement très mal. Concernant les révoltes en Iran, bah bon, il y aurait forcément eu beaucoup plus de trucs à dire. On peut pas résumer en 10 minutes ce qui se passe depuis un mois, voilà. Et ben bah, moi je vous invite à relayer le maximum les infos, comme je disais en fait. Bah, en relayant et en faisant en fait en sorte que ce soit visible, que cette révolte soit visible en Occident, et ben on aide vraiment cette révolution. Il y a plein de choses, les extraits de que vous avez entendus pendant la chronique, ça vient d'un plateau qui a été proposé par Mediapart, que vous pouvez retrouver si vous tapez Mediapart Iran révolte, vous allez tomber sur cet article là. Il y a aussi une super émission de C'est ce soir de France 5 qui a été faite sur les révoltes en Iran il y a une petite semaine. Donc, allez-y, voilà. Allez, on va enchaîner avec l'agenda, on arrive sur la fin de cette émission, à commencer par ce soir, vendredi 7 octobre à 19h, apéro de sortie de CQFD dont on parlait tout à l'heure, plus boom à Manifesten, c'est au 59 rue Thiers dans le premier.
Et encore ce soir à 20h à la librairie Transit, il y a la projection du film Claude Maïquet de Harlem à Marseille, de Mathieu Ver... Ah pardon. Claude Maïquet de Harlem à Marseille, de Mathieu Verdeil. Et il y a une présentation du livre Un sacré bout de chemin, édition Héliotropisme et Retour à Harlem, édition Nada. Et c'est au 51 boulevard de la Libération.
Et demain, samedi 8 octobre à 14h, il y a une manif Liberté pour Ocalan et pour un avenir démocratique, libre et pacifique. Et c'est au Réformé.
Et aussi demain, y a une grande assemblée générale féministe en mixité choisie sans mec 6. C'est de 14h à 17h à Manifesten pour continuer à préparer la grève féministe du 8 mars 2023. Et donc les assemblées, c'est tous les 8 de chaque mois. Là, donc c'est demain samedi à partir de 14h à Manifesten.
Il y a la soirée de soutien au festival queer féministe intersectionnel marocain in Tallinn. C'est ce samedi 8 octobre à partir de 19h. Tu viens t'ambiancer au snack, un bus, un bis rue Espérandieu et soutenir le festival du collectif queer féministe intersectionnel. Voilà.
Et dimanche toujours de 17h30 à minuit, il y a la projection d'un documentaire Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme. Donc là, ça sera la diffusion de deux des quatre épisodes. Donc l'épisode 3 des fleurs et des pavés, l'épisode 4 les réseaux de la colère. En gros, entre 45 et 2012, quoi, une histoire de l'anarchisme entre 45 et 2012. Et c'est suivi ensuite d'un apéro-repas et puis d'un DJ à 21h30. C'est de 17h30 à minuit. Et on peut s'inscrire sur la newsletter de Primitivi pour recevoir l'info.
Et puis il y aura une assemblée antifasciste dimanche à 17h30 à la DAR. Donc c'est dimanche 9 octobre à la DAR Centre Social Autogéré, 123 rue d'Aubagne, assemblée antifasciste.
Et il y a un rassemblement devant le consulat d'Italie pour Vincenzo Vecchi, mardi 11 octobre à 12h, de 12h à 13h30, 56 rue d'Alger, dans le 5e à Marseille. Et on n'a pas eu le temps aujourd'hui, comme on n'a que 30 minutes, de diffuser leurs 10 minutes qu'ils nous avaient envoyées. Mais on essaiera de faire ça la semaine prochaine, voilà, ou un autre créneau.
Mercredi prochain, comme tous les mercredis de 18h30 à 20h30, c'est la permanence du collectif autonome du bâtiment et du syndicat Sud Construction. Ça se passe au local de Solidaire, 29 boulevard Longchamp à Marseille. Et pour contacter, il y a un numéro de téléphone 06 95 75 42 71.
Et puis à manifester le mercredi aussi, donc à 19h30, il y a une présentation et un débat No Border Yes Rescue avec Antonin Richard et des membres marseillais de l'Alarm Phone. C'est mercredi à 19h30 à manifester.
Et jeudi 13 octobre de 19h30 à 22h30 au 3C, 23 boulevard Carnot, à Aix-en-Provence, la France construit-elle les conditions pour ne plus se nourrir ? C'est un concert, l'avenir des terres de Pertuis. Et donc c'est avec la Confédération Paysanne, Terres Vives Pertuis et des Apatistes.
Et enfin, on finit cet agenda avec un rendez-vous vendredi prochain, 14 octobre à 19h30 à Manifesten. C'est la cantine Manifestin en soutien au collectif Alarmphone, un réseau transnational d'activistes qui luttent pour la liberté de circulation et contre la criminalisation de celles et ceux qui se déplacent malgré les frontières.
Vous avez tout noté et vous allez aller à tous les rendez-vous parce que vous êtes des vrais militants des militants.
Il est 13h pile, c'est la fin des infos choisies. Vous allez tout de suite retrouver dans quelques minutes l'agenda alternatif.
Avec plein de musique trop bien. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à 12h30.
Salut, à la semaine prochaine.
Ciao.
Ciao.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org. Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.